Frères et sœurs, aujourd'hui, nous allons voir un passage, à mon avis, le plus important dans le Nouveau Testament, que nous devons bien connaître. Ce passage s'appelle le prologue de l'Évangile de Jean. Prologue de l'Évangile de Jean. C'est Jean, chapitre 1, versets 1 à 18. Jean, chapitre 1, versets 1 à 18. Et je préférais, frères et sœurs, beaucoup parmi vous qui faites n'importe quelle prière, parce qu'on vous a donné, je préférais, pour enrichir vos prières, que vous fassiez le prologue, souvent dans vos prières. Parce que dans ce le prologue, il y a quelque chose qui se dégage de façon puissante. Il y a une énergie qui se dégage de façon puissante. Il y a une force qui se dégage de façon puissante. Vous savez, mes frères et sœurs, nous avons 4 évangiles. Les trois premiers évangiles parlent de la vie du Christ, de la naissance du Christ, et aussi parlent de la repentance également. Et le dernier évangile, c'est l'évangile de Jean, qui est tout à fait différent des trois premiers évangiles. C'est un évangile qui est axé presque exclusivement sur la divinité du Christ. Cet évangile de Jean, ce qu'on appelle le prologue, c'est, frères et sœurs, c'est la proclamation de la divinité du Christ. C'est la proclamation, c'est un hymne à Jésus-Christ comme Dieu, Dieu à part entière, vrai Dieu, vrai homme. C'est un hymne à la gloire de Jésus pour nous montrer que Jésus est incontournable. Il est la clé de tout dans le Nouveau Testament. Alors, frères et sœurs, je vous dis, s'il y a l'un des passages les plus importants du Nouveau Testament, c'est le prologue. C'est l'affirmation de la divinité du Christ. Mais c'est un hymne à la gloire de Jésus, et qui nous montre combien Jésus est incontournable, qui nous montre que toutes les clés du christianisme, c'est Jésus qui les possède. Oui, c'est un hymne qui célèbre la divinité du Christ, ce prologue. Un prologue qui proclame une louange à la gloire de Jésus. Saint Jean confesse sa foi, il rend grâce à Dieu pour ce dessein salvifique, pour ce dessein merveilleux que Dieu a eu en envoyant son Fils Jésus et en nous confiant à ce Fils, au Fils de Dieu. Et alors, on va désigner le Fils de Dieu tantôt par la parole de Dieu, tantôt par le Logos, tantôt par Verbe de Dieu. Si l'on peut faire 3 parties pour étudier ce prologue, il y a d'abord au début, il y a l'affirmation de la divinité la divinité du Fils de Dieu. La divinité du Fils de Dieu, la première partie de 1 à 5, préexistence du Christ, communion parfaite entre le Christ et le Père, parole de vie, parole de lumière, cette lumière qui agit dans les ténèbres, qui agit sous les ténèbres, et les ténèbres doivent se soumettre. Deuxième partie, ça va de 6 à 13, qui Jean-Baptiste est l'envoyé comme précurseur. Un précurseur, c'est celui qui est venu pour témoigner et préparer la venue du Christ, du Messie. Et aussi, de 14 à 18, la grâce et la vérité sont venues par Jésus-Christ, qui nous a fait connaître le Père. Bon, frères et sœurs, le premier message, qui est d'une puissance extraordinaire, le premier verset, au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Au commencement, avant même la fondation du monde, cette parole, c'est-à-dire le Fils de Dieu, cette parole, le Fils de Dieu, était auprès du Père. Au lieu de l'appeler le Fils de Dieu, on appelle la parole. D'accord? C'est lui, cette parole par laquelle le Père a tout créé. Donc la parole qui veut dire, à chaque fois que je dirai parole, c'est Fils de Dieu, ça veut dire. D'accord? Au commencement était la parole, c'est-à-dire le Fils de Dieu. Et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Donc, ils affirment, ces gens, dès le départ, ils affirment deux choses, que le Fils de Dieu est Dieu. Et le Fils de Dieu était avec Dieu avant même la fondation du monde. Il préexistait. Dans ce verset, Jean affirme à la fois, comme je viens de vous le dire, la préexistence du Fils de Dieu et la divinité du Fils de Dieu. Et cela, dans une communion parfaite entre le Fils de Dieu et Dieu le Père, de la puissance de l'Esprit. On voit que dès le début, c'était un petit peu la Trinité qui était annoncée. Le Père qui est là, par qui? Le Père qui va agir à travers son Fils et dans la puissance de l'Esprit. C'était un petit peu la Trinité qui était annoncée. C'est par lui, c'est par elle, la parole, c'est-à-dire le Fils de Dieu, que le Père a tout créé. C'est par le Fils, son Fils, que Dieu le Père a tout créé. Il a tout créé, il a tout fait par son Fils. Mais bien aimé, cette parole apporte, il dit que cette parole apporte aux hommes deux choses à la fois. La vie et la lumière. Et c'est cette lumière, lorsqu'on parle de Dieu, lorsqu'on parle de lumière, ce n'est ni une lumière qui ressemble à la lumière du soleil, ni une lumière qui correspond à ces lumières dans les ampoules. C'est une lumière spéciale que personne ne peut voir, mais c'est une lumière réelle et qui existe. Fils de Dieu, le Fils de Dieu nous apporte à chacun de nous ici la vie et la lumière. Il nous apporte la vie physique. Puis c'est lui qui peut nous guérir, qui peut nous ressusciter, il donne la vie. Mais c'est lui qui nous donne aussi la vie éternelle. Il donne la vie physique, il donne la vie éternelle. C'est lui, quand le médecin te dit qu'il n'y a plus rien à faire, quand le médecin te fait comprendre que tout est fini, c'est lui, le Fils de Dieu, qui peut t'apporter la vie, qui peut te guérir. Donc le Christ nous apporte la vie physique, mais c'est lui qui nous sauve et qui nous donne la vie éternelle. Donc c'est une vie complète qu'il nous apporte. Et en plus de ça, il est dit qu'il nous donne la lumière. Je vous ai répété, ce n'est pas une lumière comme la lumière du soleil, ce n'est pas une lumière comme la lumière de la lampe, c'est une lumière spéciale que personne ne peut voir, sauf si le Christ permet de le voir. J'ai eu beaucoup d'ouvrages de témoignages où les gens disaient, Jésus, si tu existes, manifeste-toi à moi. Qui pendant longtemps ont prié comme ça. Et puis un jour, dans la nuit, leur chambre s'illumine de cette lumière. C'est une lumière divine. Et c'est cette même lumière qu'on trouve aussi dans la création lors de la Genèse. Quand on parle de lumière au début de la Genèse, il ne s'agit pas de la lumière du soleil, puisque le soleil était créé, je crois, le quatrième jour. Il s'agit d'une lumière divine. C'est cette lumière que Jésus va ce soir répandre sur cette assemblée. C'est cette lumière qui va briller sur cette assemblée ce soir. Il nous apporte la vie et la lumière. Et en faisant ça, cela m'a rappelé quelque chose. Et peut-être à vous tous qui m'écoutez. C'est la vie d'une plante. Vous avez tous des plantes chez vous ou dans votre jardin. Vous savez que vos plantes ont besoin du soleil, d'accord, pour vivre. Pour vivre, ta plante a besoin du soleil. Et nous aussi, nous avons, comme une plante, nous avons besoin de ce soleil, de ce soleil divin, de cette, pas le soleil, de cette lumière divine. Et cette vie que seul Jésus peut nous apporter. Le Père donne la vie, le Fils donne la vie aussi. Et à qui il veut. Jésus nous donne la vie. Et peut-être que ce soir, beaucoup parmi vous qui êtes désespérés, qui ont des maladies graves, Dieu peut te guérir et te donner la vraie vie. Amen. Et je me souviens aussi de ce passage, Proverbe 4, verset 20-22, qui dit « Mon fils, sois attentif à mes paroles, prête l'oreille à mes discours, qui ne s'éloignent pas de tes yeux, garde-les, c'est-à-dire garde-les mes paroles, mes discours, garde-les dans le fond de ton cœur, car c'est la vie pour ceux qui les trouvent et la santé pour tous ceux, pour tout leur corps. » Donc la parole de Dieu, cette parole, est la vie. Nous pouvons trouver la vie dans cette parole. Et cette parole, c'est le Fils de Dieu. Amen. Cette lumière spéciale qui va briller tout à l'heure sur cette assemblée. Et vous savez, le psaume 119, verset 105. Vous avez peut-être les références de ce que je viens de dire. C'est le Proverbe 4, verset 20-22. Proverbe 4, verset 20-22. Et aussi, psaume 119, verset 105. Une lampe qui est sur mes pas. Ta parole est une lumière sur ma route. Ta parole est une lumière sur ma route qui m'éclaire, qui me montre là où y aller les écueils. Ta parole, c'est une lumière qui doit nous éclairer. Jean-Baptiste est le précurseur. C'est celui qui est venu pour préparer la venue du Christ, pour donner un témoignage sur le Christ. Et vous savez, Jean-Baptiste, qui est né avant Jésus, il dit que Jésus était avant lui. Qu'est-ce qu'il a voulu dire par là? Donc Jésus préexistait avant lui. Et Jean-Baptiste, il va développer ce témoignage sur Jésus. Il va dire, c'est Jésus, c'est le Fils de Dieu. Le Fils de Dieu, c'est la parole, le Fils de Dieu qui enlève nos péchés, les péchés du monde. Il n'est pas dit les péchés, mais les péchés du monde. Donc c'est lui, le Fils de Dieu. Jésus ne prend pas seulement nos péchés, mais il prend les péchés du monde entier. Le christianisme, c'est l'universalisme. C'est le monde entier, les hommes, tous les hommes qui intéressent. C'est lui, l'agneau de Dieu, qui enlève les péchés du monde. Et Jean-Baptiste a dit aussi, c'est lui qui nous baptise du Saint-Esprit. Cela veut dire, en d'autres termes, Jean-Baptiste reconnaît que le Fils de Dieu est Dieu. Amen. C'est lui qui enlève les péchés du monde. Vous trouvez ça dans l'évangile de Jean. Dans Jean 1, verset 29-34, Jean 1, verset 29-34, il nous donne, c'est celui qui enlève le péché du monde, et c'est celui qui nous donne le Saint-Esprit. Et voilà comment Jean termine son témoignage. J'ai rendu témoignage qu'il est le Fils de Dieu, c'est-à-dire Dieu lui-même. Et puis Jésus, mes frères et sœurs, mes bien-aimés, Jésus a affirmé sa divinité. Dans le chapitre Jean 8, par trois fois, Jésus a dit « Je suis ». Et c'est ce « Je suis » qui va agir cet après-midi dans cette assemblée. « Je suis », c'est le nom de Dieu qui avait été révélé à Moïse au milieu du buisson ardent. Jésus dira par trois fois, le chiffre 3 c'est un chef parfait, par trois fois « Je suis, je suis, je suis ». Avant qu'Abraham fût, je suis. Lorsque le Fils de l'homme sera élevé, on comprendra qu'il est vraiment je suis, etc. Par trois fois, je suis. Et au jardin de Gethsémané, il s'est passé une drôle de chose. Quand les gardes sont venus à Gethsémané pour arrêter Jésus, alors Jésus lui demandait qu'est-ce que vous cherchez? Ils disent, Jésus le Nazaréen. Jésus répondit simplement, c'est moi. Cela veut dire, en d'autres termes, je suis. Et quand on prononce le nom de Dieu, tout genou doit fléchir, pas seulement fléchir, mais doit tomber par terre. Et les gardes sont tombés. Ils ont tombé de façon brutale. C'est la même chose. Quand le grand prêtre rentrait dans le Saint des Saints, il prononçait le nom de Dieu. Et les gens ne comprenaient pas pourquoi tout le monde tombait boum par terre. Quand on prononce le Dieu, en mon nom, tout genou doit fléchir. Et quand Jésus a dit, c'est moi, c'est-à-dire, il avait dit, je suis, tous les gardes sont tombés par terre. Et vous savez, si Jésus voulait partir, Jésus est reparti, mais ils étaient tous flanqués par terre. Et ce nom de Je suis, cela veut dire que Jésus reconnaît que lui-même, il est Dieu. Il est dit que cette parole était dans le monde, et le monde avait été fait par cette parole, et le monde ne l'a pas connu. Vous savez, le monde dans lequel nous vivons, c'est un monde corrompu. C'est un monde de l'ésotérisme, de l'occultisme, de la sorcellerie. Vous n'entendez que ça chaque jour à la radio, à la télé. On introduit l'occultisme même dans la médecine. Mais c'est quelque chose d'odieux. Et tout est permis. J'ai apprécié ce matin, quand j'ai écouté quelque chose à la radio, quand il faisait une loi sur l'IVG, il discutait une loi sur les IVG. Quand il y a un député centriste, au milieu de l'Assemblée, au milieu de tous les députés, il dit, Dieu, pardonne-les pour tous ces enfants qui seront sacrifiés. Comment j'ai apprécié ce courage de ce député. Mes frères et sœurs, ce monde n'a pas reconnu Jésus, n'a pas accueilli Jésus, parce que c'est un monde qui est corrompu. Mais Dieu aime ce monde, parce que Dieu veut le sauver aussi. Mais c'est un monde corrompu, un monde d'injustice, un monde où il y a des massacres qui se passent tous les jours. Le monde n'a pas reconnu. Jésus est allé chez les siens, c'est-à-dire en Israël. Israël l'a pas reçu. Israël l'a rejeté. Sous prétexte que le Messie qu'ils attendaient, c'était un fils de David. C'est-à-dire un homme politique, un homme guerrier, qui allait les libérer de l'esclavage des Romains. Mais Jésus n'était pas venu pour cet esclavage. Il était venu pour l'esclavage du péché. Et il est dit aussi qu'ils ont exécuté Jésus par jalousie. Parce que Jésus faisait des choses qu'ils ne peuvent pas faire. Jésus disait des choses qu'ils ne peuvent pas dire. Donc il a été rejeté par Israël. Mais, il est dit dans le peuple, il est dit Jésus a trouvé des gens. À cause de ceux qui l'ont reçu, ceux qui croient en son nom, la parole a donné le pouvoir, le Fils de Dieu a donné le pouvoir de recevoir, de devenir enfant de Dieu. Lesquels ne sont pas nés, ni du sang, ni d'une volonté de la chair, c'est-à-dire de façon charnelle, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. Voilà ce qu'il dit, je vais vous l'expliquer. Il dit qu'à travers tout ce monde qui n'a pas voulu l'accueillir, mais il a trouvé des gens, il a trouvé des personnes que son message a touché. Et ces gens ont accueilli Jésus. Ils ont accueilli son nom, ils ont cru en son nom. Croire au nom de Jésus, c'est quoi ça? Ça veut dire quoi? C'est croire en Jésus, c'est croire en sa parole, c'est croire en son évangile. Et à tous ces gens qui l'ont accueilli, qui ont cru en lui, il leur a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Mais je peux vous dire, ces enfants de Dieu, vous avez choisi de suivre le Christ. Ces enfants de Dieu, c'est vous. C'est vous tous qui avez capté cet appel et qui êtes venus en cette assemblée. Vous avez préféré, au lieu d'être sur un terrain de football, vous avez préféré, au lieu d'être devant la télé ou au cinéma, vous avez préféré venir ici. Parce que vous avez entendu l'appel du Christ. Et le Christ a fait de vous son enfant de Dieu. Des nouveaux-nés. Et cette nouvelle naissance, vous la recevez lors du baptême. Cette nouvelle naissance, c'est que l'Esprit de Dieu est venu, descendu sur vous. L'Esprit de Dieu vous a transformé. Tous ceux qui croient en Christ sont devenus une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées, voici que toutes choses sont devenues nouvelles. Vous êtes devenus enfants de Dieu. Et vous l'êtes, enfant de Dieu. Ne croyez pas aux gens qui disent « Je suis enfant de Dieu ». Tout le monde dit ça, c'est pas vrai. Ceux qui ne croient pas en Jésus ne sont pas les enfants de Dieu. Je ne parle pas des autres religions, mais ceux qui sont dans le monde, qui vivent dans le monde, ils vous disent qu'ils sont enfants de Dieu, c'est pas vrai. Ils sont des créatures de Dieu, mais ils ne sont pas enfants de Dieu. Vous êtes enfants de Dieu. Vous êtes bénis par Dieu. Vous savez, il y a deux types de naissance. La naissance physique, quand vous êtes né de votre maman, de votre papa, et il y a la nouvelle naissance qui vient de Dieu. Cela nous enseigne une chose. Quand nous sommes sauvés par la foi, c'est tous ceux qui ont cru en lui que Jésus a sauvé. C'est tous ceux qui ont cru en lui qu'il a fait d'eux des enfants de Dieu. Nous sommes sauvés par la foi. Mais, ne croyons pas aux gens qui disent « Nous sommes sauvés par la foi ». Oui, mais Dieu te sauve pour les servir. Dieu te sauve pour aller pratiquer des actes de charité. Matthieu 25. Dieu te sauve pour que tu ailles travailler au royaume, que tu puisses faire grandir le royaume. Tu es sauvé déjà, mais il faut aller produire des œuvres. Et on ne peut pas... Vous savez, c'est ça, la grande différence qu'il y a eu entre les protestants et les catholiques. 100 ans de guerre. 100 ans de guerre, parce que les protestants disaient, on est sauvé directement par la foi, et les catholiques disaient, oui, par la foi, mais on doit produire aussi des œuvres. 100 ans de guerre pour ça. Regardez le nombre de gens qui ont été tués, le nombre de protestants qui ont été tués, le nombre de catholiques qui ont été tués, et maintenant, pratiquement, tout le monde est d'accord avec cela. On est sauvé par la foi, mais on est sauvé pour servir. Pour servir Dieu. Amen. Et donc, c'est l'Esprit Saint qui agit. L'Esprit Saint qui n'ont pas reçu au moment du Nouveau Testament, de l'Ancien Testament. Parce qu'il y avait un problème. Parce que leur péché n'était pas effacé. Leur péché était simplement recouvert par le sang des animaux. Et avec Jésus, nos péchés sont effacés. Donc, nous pouvons recevoir tous, nous pouvons recevoir le Saint-Esprit. Frères et sœurs, si tu es nouvelle naissance, tu appartiens à cette nouvelle naissance, sache que Jésus te protège. Sache que Jésus, non seulement il te protège, il te donne la puissance, il te donne l'autorité, le pouvoir, sous toutes les forces, sous toute la puissance de l'ennemi. N'ayez pas peur devant Satan. N'ayez pas peur du bruit que vous entendez dans votre maison. N'ayez pas peur de voyant le marabout. N'ayez pas peur. N'ayez pas peur. Dieu vous a donné cette autorité. Dieu vous a donné cette puissance en vous. Sur toute la puissance de l'ennemi. C'est-à-dire sur Satan lui-même. Tu as le pouvoir. Tu as l'autorité en toi. Ne te laisse pas intimider par Satan et ses démons. Mais il est dit, quand Jésus est venu, la gloire. En Jésus est venue la gloire. Je vais vous poser la question, comment cette gloire s'est manifestée en Jésus? Jésus a manifesté sa gloire. Et il va manifester sa gloire cet après-midi ici. Il va manifester sa gloire. Il a manifesté sa gloire de 3 façons. Jésus a donné l'exemple. C'était l'homme qui n'a jamais péché. C'était l'homme qui savait annoncer la parole. C'était l'homme qui manifestait la bonté de Dieu, la miséricorde de Dieu. C'était une façon de manifester sa gloire. Il a manifesté sa gloire lors de la transfiguration à la montagne, où il y avait Élie et Moïse, où Jésus a été recouvert totalement par la nuée. Par ce soleil qui brillait sous ses joues, sous ses vêtements. Et Jésus a manifesté sa gloire par ses miracles. Jésus a manifesté sa gloire par ses miracles. En particulier, je pensais au miracle du paralytique. Parce que non seulement il a pardonné au paralytique ses péchés, parce que seul Dieu peut pardonner les péchés, mais il a dit, de la façon dont il a parlé au paralytique, lève-toi, prends ton grabat et rentre chez toi. Ou encore, Jésus disait, va, ton enfant, quand le chef de synagogue venait voir, dit, son enfant est malade, il dit, tu n'as pas besoin de venir chez moi, dis une seule parole, il sera guéri. Jésus qui est la parole. Jésus dit, va, ton enfant est guéri. Seul Dieu peut faire ça. Donc, Jésus a manifesté sa gloire. Il manifestera sa gloire cet après-midi par les miracles qui vont s'accomplir cet après-midi ici. Il manifestera cette gloire. Il a manifesté sa gloire. Et il est dit ce qui est important pour savoir. Pourquoi l'évangéliste Jean, pourquoi il a commencé son évangile par au commencement? Pourquoi? C'est pour nous rappeler au commencement, Dieu créa le ciel et la terre. C'était pour nous rappeler qu'il y avait une autre création avant la sienne. Jésus, ce qu'il voulait, c'était une nouvelle création, un nouveau peuple. Et ce nouveau peuple, c'est vous! Il n'a pas voulu une nouvelle création, création de la terre, tout ça. Non. Il avait besoin de nouveaux peuples. Un nouveau peuple qui l'obéisse. Un nouveau peuple qui croit en lui. Jésus, c'était la nouvelle création. Nous sommes ce nouveau peuple. Nous sommes cette nouvelle création. N'est-il pas dit que lorsque Jésus, à Pâques, lorsque Jésus est ressuscité, nous sommes morts avec lui et ressuscités avec lui? N'est-il pas dit cela? Donc nous appartenons à cette nouvelle création. Je crois qu'il a voulu une nouvelle création. Il n'a pas voulu cette création qui est descendue d'Adam et Ève, qui a hérité du péché, qui a hérité de la corruption, qui a hérité du refus de Dieu. Il ne voulait pas cette création venant de Adam et Ève. Adam a péché, Ève a péché, et ce péché nous l'a transmis. Tout homme qui naît, toute femme qui naît, on est pécheur. Jésus a voulu briser cela. Il a voulu créer la nouvelle création. Frères et sœurs, voilà, il nous dit aussi que la gloire, la parole a été faite chair et cette parole a habité parmi nous. Jean 1, 14. Cette parole, ce Fils de Dieu est venu habiter parmi nous. Et c'est là, frères et sœurs, que vous avez toute l'originalité du christianisme. Vous savez, toutes les religions, ils cherchent Dieu où? Dans le ciel. Ils cherchent dans le ciel. Mais nous, nous le cherchons dans notre cœur. Christ est venu habiter, il est Dieu. Il est venu habiter en nous. Et parmi nous, au milieu de nous, il est là. C'est ça que des gens qui nous combattent ne peuvent pas comprendre. Il est le Dieu vivant. Il est là. Aucune autre religion ne peut dire. Nous savons qu'aujourd'hui, que Christ, pour nous démontrer sa divinité, il fait ce qu'il a fait pendant son ministère. Qui peut dire, quelle religion, est-ce peut dire au nom de Bouddha, au nom de Mahomet, au nom de Moïse, soit guéri? C'est parce qu'il est ressuscité et vivant. C'est parce qu'il est Dieu. Parce qu'il est ce Dieu qui est en nous, qui est avec nous. On peut entrer dans l'intimité avec le Christ. On peut entrer en communion avec lui à tout moment. Et c'est ce que le Christ veut. C'est une relation avec nous. Il vient habiter en nous pour qu'il ait une relation, une vraie relation avec nous. Une vraie communion avec nous. Amen. Et c'est ça l'originalité du christianisme. Dieu est avec nous. Dieu, c'est l'Emmanuel. L'Emmanuel est là. Il est là au milieu de nous. Et dans ce prologue, il a pris notre condition humaine, il s'est humilié, il était Dieu, il était. Il s'est humilié, il a pris notre condition humaine. Il a obéi au Père jusqu'à la croix. Nous avons reçu en plénitude la grâce sur grâce, nous dit le prologue. La loi a été donnée à Moïse, et la grâce et la vérité sont venues par Jésus-Christ. La loi est donnée à Moïse. Moïse, c'est sous cette loi qu'ils ont passé alliance au désert du Sinaï avec Dieu, sous le fondement de cette loi. Cette loi qui a 613 commandements, mais qui a été résumée en 10 commandements. Dieu nous dit, par le Fils de Dieu, il nous dit, tout est grâce. Là où le péché a abondé, la grâce a surabondé. Tout est grâce avec Jésus. Et c'est ce soir par grâce qu'il va nous guérir, par grâce qu'il va nous délivrer. Tout est grâce. C'est par grâce et moyen de la foi qu'il nous a sauvés. C'est par grâce qu'il nous a sauvés. C'est par grâce qu'il va nous guérir tout à l'heure. C'est par grâce qu'il va pourvoir tous nos besoins. Tout est grâce. Il n'y a pas le Père Fouettard là. Le Père Fouettard qui envoie en exil. Mais en Jésus-Christ, tout est grâce. Beaucoup. Et Jésus parle beaucoup de vérité. La vérité, le mot vérité, je crois que c'est le mot le plus, qui a été le plus prononcé dans le Nouveau Testament. Pourquoi Jésus nous dit qu'il vient apporter la vérité? Et il est l'unique, il est la vérité lui-même. Il est l'unique à nous apporter la vérité. Si je dis ça, les autres religions m'ont dit que je suis un menteur. Non, c'est pas vrai. Parce que Jésus est en Dieu. Jésus est en sortie du Père, du sein du Père, lui seul, pour connaître toute la vérité. Toute la vérité. Les autres religions disent toujours qu'ils enseignent la vérité. Mais ils ne peuvent enseigner que des vérités partielles, parce qu'ils sont hommes. Mais Jésus est en Dieu. Jésus étant sorti du sein du Père, Jésus peut nous enseigner toute la vérité. Quand Pilate lui a dit, il a dit à Jésus, es-tu roi? Jésus a dit, oui, tu l'as dit, je suis roi. Mais je suis venu dans ce monde pour témoigner de la vérité. Et ceux qui veulent entendre cette vérité entendent ma voix. Je suis venu témoigner de la vérité. Jésus est venu nous enseigner la vérité. Et la vérité qu'il nous enseigne, c'est une vérité qui nous rend libres. Qui nous rend libres. Cette parole qu'il nous enseigne, c'est une parole qui nous rend libres. Et enfin, Jean termine son le prologue en disant que personne n'a jamais vu Dieu. Le Fils unique qui est dans le sein du Père nous l'a fait connaître. Mais c'est évident, frères et sœurs. Qui a vu Dieu? Personne. Puisqu'il est dit que Dieu est esprit. Un esprit qui est infini. Comment quelqu'un peut voir quelque chose qui est infini? Et aussi, nul ne peut voir Dieu à cause même de la sainteté de Dieu. Celui qui est trois fois saint, quel homme qui peut s'approcher de lui? Moïse a demandé de voir sa gloire, c'est-à-dire de le voir. Et Moïse n'a pas été exaucé. Dieu l'a fait voir, bien sûr, mais de son dos. Il a vu le dos de Dieu, mais il n'a pas vu Dieu. On ne peut pas voir Dieu et vivre. On verra Dieu lorsque nous aurons quitté ce monde, on verra Dieu tel qu'il est. Et attention, Jésus nous a dit qu'il est venu nous apporter cette révélation. Jésus est venu nous révéler de façon définitive qui est Dieu. Puis cette révélation avait déjà commencé sous l'Ancien Testament. Mais attention, Jésus m'a fait comprendre un jour, il m'a dit, j'enseigne, je suis venu vous enseigner de vous faire connaître Dieu. Mais sache, il m'a dit, sache que je ne peux pas vous enseigner toute la vérité sur Dieu. Je vous enseigne ce que vous avez besoin pour votre vie de chrétien. On ne peut pas connaître Dieu dans sa totalité. Si on connaissait Dieu dans sa totalité, on serait devenu Dieu nous-mêmes. Mais Jésus veut nous enseigner l'essentiel de ce que nous avons besoin de connaître, Dieu. D'accord? Et il ne nous a pas enseigné toute la connaissance, puisqu'il a dit que le Saint-Esprit viendra et vous introduira dans la connaissance tout entière. Mais Jésus est venu nous révéler Dieu. Et ce sera ma dernière parole. Quand Philippe lui a dit, mais montre-nous Dieu, il a dit, qui m'a vu a vu le Père. Et c'est cela que nous devons comprendre. Le Père est en lui et lui est en le Père. Il faisait un avec le Père. Qui m'a vu a vu le Père. Et je voulais que chacun de vous dise ici, qui m'a vu a vu le Christ. Qui m'a vu? Lui, Jésus a dit, qui m'a vu a vu le Père. Mais je souhaiterais que chacun de vous ici disent, qui m'a vu a vu le Christ. par l'amour qui se dégage de votre visage, par votre façon de faire, par vos façons de parler, par vos façons de pratiquer la charité. Qui m'a vu? Dites-le avec moi. Qui m'a vu a vu le Christ. Le Christ qui est en moi et qui est avec moi. Alléluia. Gloire à Christ, gloire à notre Dieu. Gloire à notre Dieu. Merci, frères et sœurs. Merci, frères et sœurs. Ce que je vous demande, c'est ce prologue qu'on vient de voir, Jean chapitre 1, verset 1-18, faites-le aussi dans vos prières. C'est une prière puissante.